célèbre diffusion de la conférence « Histoire d'une image de violence policière » qui s'est déroulée au Cinéma Nova le 12 juin 2022 au sein du cycle « Screenshot, images de révolte, images révoltantes, à quoi bon le cinéma ?» Avec comme intervenants invités Antoine Schirrer, Émile Costard, Yoke Calwart et Nordine Saïdi. Cette conférence a été organisée et présentée par Mojiro dans le cadre d'un projet de recherche Copwatching, la guerre du storytelling, soutenu par le FNRS et l'ASBL Art et Recherche.
Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là. On est dans une programmation que propose Nova là, sur 2 mois et demi autour de la question du flux numérique et comment les artistes revisitent des images. Mais on a décidé de poser ce week-end plutôt la question à quoi bon le cinéma, parce que ça me semble, même si je parle en tant que réalisatrice, ça me semble presque indécent de parler d'un point de vue d'artiste quand on parle d'images de violence policière. Et que moi, ce qui m'intéressait plus, c'était les enjeux qu'il y a derrière la question des images policières et ce qu'elles brassent dans le réel, plus que d'arriver avec un regard un peu abstrait d'artiste là-dessus. Même si, ayant une formation de réalisatrice, je vais problématiser la séance d'aujourd'hui à partir d'un rapport d'analyse d'images, ayant l'habitude de les fabriquer, de les analyser, de les regarder. Voilà. Ce que j'ai proposé comme cadre de discussion autour de ces images, c'est de se demander quel impact une image peut avoir sur le réel et est-ce qu'elle peut avoir un rôle de contre-pouvoir. On va analyser la question de la guerre des récits à l'œuvre avec les images de violence policière et la construction de récits dissonants avec ceux des forces de l'ordre. Ce que je voulais, c'était introduire un petit peu les termes, faire quelques points légaux et historiques pour contextualiser la problématique. Et après, je laisserai la parole à nos invités, que je remercie d'être présents et présentes. Alors, quand je parle d'image, c'est vraiment au sens matérialiste du terme, d'un ensemble de pixels, on ne parle pas de métaphore, de reproduction visuelle, aussi bien de vidéos que de photos. Violence policière, d'un point de vue strictement légal, c'est les questions de violence policière quand il y a un usage non nécessaire, illégitime et non proportionné de la force. Et on parle aussi bien de violence physique, verbale que psychologique. Ça, c'est d'un point de vue légal. J'ai proposé comme cadre de parler plus des violences systémiques quotidiennes en écartant celles du maintien de l'ordre des mouvements sociaux, parce qu'il me semble que ce n'est pas du tout les mêmes logiques à l'œuvre et les mêmes enjeux. D'un pays à un autre, le contexte historique, sociologique et politique n'est pas le même quand on parle de violences policières. Donc du coup, on va se centrer sur la Belgique, et si on parle d'autres pays, parce qu'on a des invités français, on le précisera. Parce que c'est pareil par rapport aux images concernant les violences policières, du coup le contexte n'est pas le même. Ça c'est pour le cadre. Par rapport aux images elles-mêmes, je voulais faire un petit point sur les outils d'enregistrement qui vont présenter des enjeux différents. Disons, en Belgique, il y a 3 outils différents. Les smartphones, les caméras de surveillance et puis les bodycams. C'est essentiellement de ces 3-là dont on parlera. Derrière la question des outils, il y a la question des points de vue, des objectifs qui sont différents. Les caméras de surveillance, elles se sont développées à partir des années 90, en gros en Belgique, plus du côté des autorités et de la police, pour finalement être vraiment pris en charge par les zones de police. Elles sont plus du côté de la surveillance. Quand de l'autre côté, les smartphones, qui donc se sont développés depuis une dizaine d'années, pour soit prévenir d'un abus, soit témoigner d'un abus, seraient a priori plutôt de l'autre camp. Un chercheur a parlé de surveillance, qui m'intéresse juste pour parler un peu de champ et contre-champ, pour reprendre des termes de cinéma comme ça. Sachant que, je pose la question dans ce cas-là, de qui filme, à ma connaissance, les invités diront d'autres choses, il n'y a pas de groupe organisé comme il y a pu en avoir aux États-Unis ou en France de copwatching. Donc du coup, ce n'est pas un terme que j'aime spécialement utiliser par ici. Il n'y a pas un groupe de militants qui s'organise en ayant la volonté de filmer et de surveiller la police, à ma connaissance. Il y a une initiative d'un groupe qui se fait appeler Copwatcher, qui est en train d'émerger depuis peu, mais qui est encore un peu balbutiant. Par contre, il y a une pratique de filmer la police. C'est du coup plutôt avec l'outil smartphone, même si justement, par exemple, aux États-Unis, les premiers groupes de copwatching, c'était avec des caméscopes, etc. Là, maintenant, la pratique de filmer la police, surtout si elle est spontanée, est plutôt faite au smartphone. Ça reste un peu des catégories types que je dis, parce qu'on parlera de l'affaire de la mine Bangoura où la personne qui filme n'est pas vraiment un passant, n'est pas vraiment à contrôler. Sa position est beaucoup plus ambiguë que celle qu'on peut voir d'habitude avec les images de cop-watching. Après, depuis 2018, s'est développé en Belgique les bodycams, qui sont développés notamment pour répondre au smartphone. Je pense à cette affaire qu'il y a eu en août 2020 sur le parvis de Saint-Gilles. Vous avez dû vite fait passer voir des images où trois jeunes filles ont été arrêtées. Les images ont été vachement diffusées. Ça a fait développer une manif sauvage assez rapidement. Puis il y a eu une interpellation suite à ça. Et à la suite de ça, le bourgmestre de l'époque, Charles Piquet, avait dit « La bataille de la communication s'engage aussi sur les réseaux sociaux. On doit être à égalité sur le plan du témoignage par l'image. » Un an après, il développe à Saint-Gilles, il lance les bodycams à Saint-Gilles. Et là, on attend de voir si elles vont se mettre en place. Mais ça a clairement été mis dans une rhétorique de répondre aux images de smartphone. Donc voilà, tout ça pour voir un peu les forces en présence. D'un point de vue légal, je fais un point très rapide. A priori, donc, filmer la police, c'est un droit en Belgique. C'est reconnu comme un usage démocratique de contrôle pour vérifier que les moyens de force utilisés sont proportionnels. L'endroit de litige possible, c'est donc pas le fait de filmer, mais c'est de diffuser les images si les policiers sont reconnaissables. Dans ce cas-là, il faut pouvoir prouver que ça rentre dans une mission d'intérêt public ou qu'il s'agit de liberté d'expression, comme le droit journalistique et d'informer. Donc le litige est sur la diffusion et pas sur la prise de vue. Pour autant, il y a clairement un différentiel entre le droit et son application, notamment avec les non-blancs bruxellois. Et Nordine reviendra sûrement dessus. Il y a plusieurs histoires de personnes qui se font arrêter ou tabasser ou qui meurent dès le moment de la prise de vue, malgré le fait qu'ils aient le droit de filmer. On peut distinguer plusieurs étapes dans la vie d'une image qui vont jouer sur les narrations à l'œuvre et sur les enjeux. Celui de la prise de vue, celui de la diffusion, qu'elle soit web, réseaux sociaux ou médias, et au moment de la procédure judiciaire, qui elle-même a plusieurs étapes. Elles s'inscrivent dans un écosystème qui va participer à une narration, et c'est ça que je vais avoir envie qu'on explore aujourd'hui. Dans écosystème, j'entends l'ensemble formé par les différents acteurs, victimes, policiers, policières, militants, militantes, passantes, passants, avocats, avocates, qui sont en interaction avec l'environnement technique, donc les supports de prise de vue que je viens de citer, les espaces de publication, les métadonnées et le stockage, qui eux-mêmes sont en interaction avec les enjeux politiques, financiers et juridiques. Et c'est cet ensemble-là qui participe à différents enjeux de guerre de récit. J'entends pas une image comme une preuve en soi, mais comme une trace. Dès lors, à chaque étape, il y a un travail de reconstitution et de resémantisation de la trace au sein d'un récit pour lui conférer une valeur de preuve. Et c'est ça que je proposais de réfléchir aujourd'hui, c'est donc aborder ces différentes étapes de la vie des images, qui n'ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes outils, méthodes et objectifs mobilisés dans ces constructions de récits. Voilà, pour le cadre général. De là, on va voir si un contre-pouvoir peut se dégager dans les images prises au smartphone, quelles sont les conditions et les limites pour que ces images puissent remettre en question le récit dominant, apporter un contre-récit, voire de nouvelles preuves. À quelle étape de leur vie elles peuvent avoir un impact, au moment de la prise de vue, de la diffusion, des procédures, comment les unes et les autres étapes peuvent se nourrir, se répondre, et stratégiquement, est-ce que c'est intéressant de penser des liens. Il sera du coup en question des enjeux de pouvoir à l'œuvre, dans l'ensemble de ces images, de ces différentes étapes, que ce soit au moment des réseaux sociaux, des médias, ou jusque dans les tribunaux. On parlera de la question du collectif, parce que ces images sont prises par un commun, d'individus qui devient commun du fait de filmer, d'open source, et la question d'image-preuve, de la réinterprétation de l'image, et notamment du hiatus entre le droit et son application dans un système raciste. Donc là, je vous ai fait une intro un peu universitaire, un peu conceptuelle, mais comme je disais, les images de violence policière, c'est doublement concret. D'une part, il s'agit de pixels, d'un truc très, très matériel. Et d'autre part, il s'agit avant tout de luttes et de personnes qui sont tapées et de personnes qui meurent. Donc du coup, j'avais envie de l'aborder de manière très concrète en invitant des gens qui travaillent au quotidien avec ces images, qui militent avec ces images, qui travaillent avec ces images. Voilà. On a Antoine Schirer et Émile Costard, que certains ont déjà entendu tout à l'heure, qui sont réalisateurs, motion designers et journalistes indépendants, qui vont plus parler du côté de la diffusion des images, des sources ouvertes et de la contre-enquête journalistique. On a Jokke Kalwaert. Jokke Kalwaert, ça va ? Qui est avocate au barreau de Bruxelles et active dans le cabinet PLN. Tu as suivi la formation d'avocat pour mineurs et tu es membre de la permanence jeunesse de Bruxelles. Elle parlera plus du côté des procédures judiciaires, notamment de la récupération et de l'exploitation des images comme, selon leurs sources et les stratégies face à l'image extrajudiciaire dans un cadre pénal. Et puis on a Nordine Saïdi, membre du collectif Justice pour la mine Bangoura et membre fondateur de Bruxelles Panthers, qui va plus nous parler des stratégies à l'œuvre pour les familles et les militants et militantes face à ces images, les enjeux interprétatifs de ces images et les limites de leur contre-pouvoir dans un contexte de racisme institutionnel. Je propose 20 minutes d'intervention environ par intervenant, et puis un moment d'échange entre nous et avec vous, et de questions-réponses. Voilà.
C'est nous qui commençons. Ok. Donc avec Émile, on est donc c'est ça, journaliste et designer et vidéaste, et on est venu à s'intéresser à ce sujet des violences policières. Moi, ça a commencé au mouvement des Gilets jaunes, en fait, où c'était l'un des premiers, c'est pas le premier moment, mais en tout cas vraiment où il y a eu une avalanche de vidéos tous les samedis qui arrivaient avec toutes ces images qui de violence qui se passait toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu comme ça. Moi, j'étais au sein de la rédaction du Monde au service vidéo, à savoir comment... Difficile à traiter, parce que en même temps, souvent, c'est l'argument qui est avancé souvent, c'est qu'elles sont... Souvent, c'est une toute petite partie qui est virale et qui tourne sur les réseaux sociaux. Donc, souvent, il y a deux récits qui s'opposent. Il y a les manifestants ou les gens qui sont victimes qui disent voilà ce qui s'est passé, et puis l'État, la police, la préfecture se défend toujours de la même façon. Ah mais vous voyez cette image, mais vous avez pas vu ce qui s'est passé avant, blablabla. Donc c'était, et puis en tant que journaliste on a un peu comment se saisir de ça, enfin c'est vrai que c'est compliqué de savoir. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à essayer de faire ce qu'on appelle des enquêtes en sources ouvertes, enquêtes open source. Et c'est comme ça qu'on a pris contact avec ça. Et qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est essayer de collecter toutes les traces qu'on pouvait trouver sur différentes affaires. Alors à chaque fois, on a fait plusieurs tentatives. Et puis finalement, on a fait l'enquête sur une affaire à Bordeaux d'un gilet jaune qui était touché par un tir de LBD, que peut-être certains ont vu, où il y avait une image qui avait été tournée de façon virale. Et... On a passé plusieurs jours à scanner les réseaux sociaux pour essayer de trouver toutes les vidéos qui arrivaient de près ou de loin à cette affaire. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, contacter tout de suite les gens et le plus vite possible, parce que souvent, les gens suppriment les vidéos ou alors elles se perdent. Enfin, voilà, je n'ai plus la vidéo. Voilà. Essayer de trouver les gens et les contacter pour savoir s'ils avaient filmé davantage de choses. On s'est retrouvé comme ça avec des centaines et des centaines de photos, de vidéos. Et on a essayé de faire ce travail de... essayer de faire émerger des nouvelles informations de ça. Ce qu'on a pu faire, ça nous a permis de contextualiser sans trop rentrer dans le détail, mais voilà, ça nous a permis d'avoir comme ça une vraie mosaïque, un fil rouge de 15 minutes avec plein d'angles vidéo différents, et qui nous a permis comme ça de montrer que ce manifestant-là, en tout cas, alors je sais que je voulais pas parler trop de maintien d'ordre, mais c'était pour prendre un exemple concret, c'est comme ça qu'on a commencé ce travail. Et c'est un outil qui revient très très souvent, voilà, c'est-à-dire quand il y a des affaires, on a vu récemment dans nos collègues au Monde ont fait quelque chose très récemment, peut-être vous avez entendu ce qui s'est passé au Stade de France il y a deux semaines, où vraiment ce couac du maintien de l'ordre où en fait pour le résumer en deux secondes, mais vous parlez, il y avait donc la finale de la Ligue des Champions et il y avait prétendument plus de gens avec des faux billets ou quelque chose comme ça, mais le maintien de l'ordre a été géré de façon n'importe comment. Et là, d'ailleurs, on a appris que les vidéos de surveillance n'avaient pas disparu, mais n'ont pas été demandées. Et donc, nos ex-collègues, enfin voilà, ont fait le travail qu'on a fait plusieurs fois sur plusieurs affaires, d'essayer de collecter toutes les vidéos possibles qu'on pouvait trouver, les mettre dans des grands tableaux Excel pour essayer de cataloguer, de faire émerger du sens. On a présenté ça tout à l'heure un peu, je ne vais pas revenir trop dessus, mais voilà, nous, très concrètement, c'est comme ça que ça se présente. C'est l'un des... comment on essaie de se saisir de ces images, et avec toutes les limites que ça peut avoir, parce que c'est vrai que c'est... Bon, finalement, on est juste avec nos deux mains, et on peut évidemment pas se saisir de tout, et puis... On est journaliste indépendant, nous, maintenant, de toute façon. Donc... enfin, voilà, c'est une première façon. Je ne sais pas si tu veux compléter.
Je continuais, du coup, sur le... Ça, c'était le maintien de l'ordre. Antoine, il s'intéresse avec cette vidéo, et ce style de vidéo, d'abord sur une question de maintien de l'ordre. Et puis, en fait, assez vite, on se rend compte que... Enfin, bon, c'est des choses qui moi, en tant qu'Émile Costard, ne me touche pas personnellement dans ma chair, mais on se dit, en fait, ce serait cool aussi et intéressant d'aller plus loin et d'essayer de montrer que ce n'est pas qu'une simple question de maintien de l'ordre pur et dur, mais que ces violences policières, elles s'exercent sur les gens des quartiers populaires, en tout cas, je parle en France. Et c'est ce qui nous a amené assez rapidement, du coup... à se lancer sur l'affaire de la famille Kébé, donc on a présenté juste avant, pour ceux qui étaient là, c'est peut-être un peu une redite, mais c'était vraiment dans cette idée-là aussi. Bon, on est journaliste, mais on est aussi citoyen, et on évolue dans une société, et du coup, on évolue aussi en France, avec tout ce qui se passe autour de l'affaire Adama, tous les mouvements sociaux autour de ça, et on se dit, en fait, voilà, il faut qu'on mette aussi, enfin, les compétences qu'on a en vidéo, en montage, en enquête, sur ce type d'affaire, et à savoir... là, on trouvait que l'affaire de Villemomble, elle était aussi symptomatique d'un maintien de l'ordre, et elle reprenait plein de choses, en fait, du comportement policier, quoi. Et en fait, on s'en est rendu compte aussi en travaillant là-dessus, c'est-à-dire que en discutant avec des sources dans la justice, des avocats, des juges, on s'est rendu compte que le récit policier lors de cette affaire, c'était pas systématique, mais quand même, enfin, il y avait quand même des choses qui revenaient dans plein d'autres affaires. En
fait, typiquement, là, c'est une affaire où il y avait beaucoup de vidéos, par exemple, et ça a été très compliqué d'avoir accès aux vidéos, et notamment la vidéosurveillance. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, les vidéosurveillances sont restées sous scellé pendant toute la durée de l'opération. La seule chose qu'il y avait dans la procédure, c'était un procès-verbal de 2 pages avec 3 photos en qualité très très médiocre, un récit de très parcellaire, enfin vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre de l'exploitation de ce genre de choses. Et on parle des images, et c'est clairement, enfin peut-être l'avocate qui est ici avec nous, on parlera peut-être plus en détail, mais c'est, voilà, en France, et je pense que c'est probablement le cas en Belgique, c'est toujours très compliqué d'avoir accès aux vidéos.
Dans des affaires de violence policière, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que quand la police est, comment dire, quand les agents de l'État sont, enfin, accusés de violence, bizarrement, en fait, souvent, les vidéos publiques sont difficilement visionnables. Là, on a parlé du cas du Stade de France, parce que c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire que le final de Ligue des Champions, il n'y a pas de vidéosurveillance. Bon, ils ne les ont pas, quoi.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme personne n'a demandé aux personnes en charge, j'imagine, au centre de surveillance, ou qu'il n'y a pas eu de requête de la part d'un juge d'instruction ou quelque chose comme ça, du coup, ils sont supprimés automatiquement. Et donc, voilà, un gros couac. Désolé, on n'a plus les images.
Et là, dans l'affaire de Villemomble, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a de la vidéo, il y a de la vidéo publique, de la vidéosurveillance. Il y a même les policiers sont même équipés de caméras, hein. Sur les motos, il y a des caméras, ouais, qui filment. Et en fait, les caméras fonctionnent pas ce jour-là, et du coup, pas d'image, quoi. Et en fait, en discutant, parce que bon, nous, c'est pas exhaustif, on n'a pas fait 50 000 enquêtes comme ça. Donc c'est aussi, je dis ça parce que c'est aussi des choses que des juges ont pu nous dire, en fait, c'est systématique. Nous, quand on juge des policiers, on doit s'en tenir à ce que, parce qu'en fait c'est la police qui analyse ces vidéos aussi et qui fournit ces vidéos.
Vous vous situez d'un point de vue pour sensibiliser l'opinion publique, pour d'un point de vue judiciaire, à quel endroit votre intervention se place?
Moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi je me considère vraiment d'un positionnement traditionnel d'un journaliste, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe, faire le boulot d'enquête journalistique en fait, et d'en rendre compte au public. Et voilà, donc c'est, moi j'ai, évidemment, enfin j'imagine que le choix des sujets que l'on fait, ils sont pas anodins. Et évidemment que on fait un choix de sujet qui nous paraît important, utile pour voilà. Et moi clairement, j'ai pris une énorme claque en découvrant ce sujet. Moi je viens d'un petit village de Gironde dans le sud-ouest de la France où ce n'est pas un enjeu. Enfin voilà, il y a pas de on n'est pas confronté à ce genre de choses. Et j'ai découvert ça par mon métier de journaliste, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est inacceptable. Enfin, j'ai trouvé ça inacceptable de voir ces problèmes-là et il y avait pas forcément. Enfin, voilà, il y avait des histoires à raconter, il y avait des histoires importantes et qui devaient être racontées. Donc, c'est pour ça qu'on essaie modestement. Après, c'est des petites. On essaie de. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question.
Tout à l'heure, c'est posé la question un peu plus concrètement de est-ce que ces enquêtes sont versées, par exemple, pour des procédures judiciaires, etc.
Alors, plusieurs ont été versées à des procédures. C'est le cas de l'enquête sur le gilet jaune dont j'ai montré brièvement quelques images. Ça a été versé au dossier d'instruction et l'instruction est en cours. Donc, on verra comment ce sera exploité. Le procès n'a pas encore eu lieu, donc on ne sait pas trop. Une autre vidéo qu'on avait fait plutôt sur des affaires de maintien, c'est encore une fois une histoire de maintien de l'ordre, mais a été versée une manifestation à Paris dont on a parlé tout à l'heure aussi. Il y a eu une procédure auprès de l'ONU, je crois, je ne sais pas qui a porté plainte, mais en tout cas cette vidéo a été jointe.
Sur Zineb Redouane.
L'affaire Zineb Redouane, qui est une affaire
L'affaire Zineb Redouane, c'était une autre affaire. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu cette affaire, mais c'est une vieille dame qui était à sa fenêtre, qui fermait ses volets et qui a pris une cartouche de lacrymo dans la tête et qui est morte en fait. Et
pendant une manifestation des gilets jaunes,
ouais. Et en fait, il y a eu une contre-expertise du rapport balistique qui a été faite par Forensic Architecture et Disclose de Médine. Enfin voilà. En France, quoi. Et
est-ce que ça a été versé au...
Et ça a été versé. Ouais. La contre-expertise a été versée au dossier.
C'est versé. Les travaux qui sont faits dans le contexte médiatique sont versés. En France, on peut verser n'importe quelle pièce, à ma connaissance, à un dossier d'instruction. Donc voilà. Après, ça reste marginal. Enfin voilà, ce genre de travail, la justice ne le fait pas. Où il y a un bref précédent là, dans l'affaire de Steve Maïa-Canisso à Nantes, qui est un jeune qui est tombé dans la Loire pendant la fête de la musique suite à une charge de police. Là, pour la première fois, je crois, historiquement en France, un juge d'instruction a fait appel à l'équipe de recherche Index, qui fait un peu le même genre de travail, pour faire une reconstitution des faits, voilà. Mais c'est la toute première fois que ça arrive. Donc en fait, la majorité des affaires, on est loin de tout ça, on est loin d'avoir ces moyens-là. La justice est très démunie, en fait, ouais, pour se saisir de ces trucs-là. Et on parle pas, en plus, là, on parle des affaires où il y a des images, mais c'est probablement marginal. Enfin voilà, il y a énormément d'affaires où il n'y a pas d'images, et où en fait, là, c'est pour ça que le rôle des images, c'est un petit contre-pouvoir. Effectivement, ça peut servir de contre-pouvoir. Dans cette affaire-là, par exemple, l'affaire de Villemomble, l'avocat des policiers pense que... l'avocat de la famille et les deux jeunes qui étaient mis en cause pensent que s'ils n'avaient pas eu les vidéos, ils seraient sans doute partis en prison. Et là, grâce aux vidéos, ils n'ont pas pu faire... Les policiers n'ont pas été condamnés, reconnus coupables, mais ouais, acquittés au bénéfice coupables des violences, mais acquittés au bénéfice de la légitime défense. Je pense que ça répond un peu à la question.
Ce qui est sûr, c'est que quand on discute avec des gens qui sont dans la justice, ils sont assez curieux de ce qu'on fait. Enfin, ça les intéresse, quoi. Donc peut-être que ça généralisera ou ça. Il y a un intérêt en tout cas.
Il y a un intérêt, mais. Par contre, enfin voilà, c'est vrai. Les gens qui sont dans la salle ce soir le savent probablement. Enfin voilà, il y a vraiment un problème de moyens. Enfin, moi, j'ai pris une claque en tant que citoyen de découvrir à quel point il y avait un manque de moyens, que ce soit moyens informatiques, ou d'expertise de la part des enquêteurs de pouvoir analyser ces vidéos-là. et en plus même de moyens pendant, tout simplement, dans les procès, apparemment, les, enfin, voilà, c'est ce que les avocats nous racontent, que très régulièrement, les projecteurs ne marchent pas, donc on peut juste pas les analyser. Voilà.
Donc il y a un problème de moyens, et il y a aussi un problème structurel aussi de la justice à juger ses propres policiers, en fait. Il y a les deux qui rentrent en compte. On se rend compte aussi que, enfin, souvent, les juges nous disent non, mais enfin, c'est compliqué de juger des policiers parce qu'en fait, c'est nos collègues au quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens, enfin, c'est eux qui fournissent une partie de la matière sur laquelle le juge va juger l'affaire. Donc, c'est bon, il y a aussi cette question-là qui est.
C'est la première dépendance, enfin, c'est ça, clairement. Enfin, ouais.
Parce que c'est ça qui peut paraître un peu paradoxal dans votre démarche, c'est que vous vous retrouvez à faire des enquêtes, quand en général on peut dire que c'est des policiers ou des juges d'instruction qui sont censés enquêter, dans des formes qui, moi je te disais un peu naïvement, ça m'évoque les polices criminelles, en vrai je pense d'un imaginaire de films américains, mais dans des formes comme ça d'enquête de police criminelle. On parlait tout à l'heure des outils que vous utilisiez, où ça peut être pratique d'utiliser Google Street View, le truc Google Earth, qu'on pourrait critiquer comme étant des outils de surveillance aussi. Ouais. Et finalement, vous vous réappropriez ces outils, ces méthodes, ces caméras pour proposer des contre-enquêtes. Mais du coup, en quoi vous arrivez à vous positionner ailleurs ?
Moi, je trouve qu'on peut-être que certains d'ici ont entendu parler du travail de Forensic Architecture, donc c'est une agence de recherche, donc c'est dans le monde académique, qui ont proposé il y a quelques années pour la première fois, voilà, ce genre de reconstitution avec de la 3D. Bah, l'idée, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est peut-être d'essayer de. C'est leur démarche à Forensic Architecture, en tout cas, et moi je trouve qu'on s'inscrit quelque part là-dedans, même si on a notre point de vue de journaliste et notre positionnement dans le champ du journalisme, avec l'éthique qui va avec, avec les contraintes qui vont avec aussi. Mais c'est cette idée d'essayer de venir challenger, ou en tout cas de contester le monopole qu'à l'État de ces outils, c'est-à-dire de l'expertise et de. Voilà. Et grâce à ces nouvelles technologies qui émergent, que ce soit les technologies de l'image numérique, que ce soit les vidéos filmées par les gens sur les réseaux sociaux. Oui, quelque part, c'est ça.
De se réapproprier ça.
On essaie en tout cas d'utiliser ces outils pour essayer de faire notre boulot de journaliste, en fait, c'est-à-dire d'essayer de venir voir s'il y a pas là où il y a des zones d'ombre, essayer de voir ce qu'il en est et d'en rendre compte au public, quoi. C'est vraiment une démarche de journaliste traditionnel, j'allais dire, en fait, c'est-à-dire vraiment fouiller, mettre notre nez là où normalement c'est fermé, et c'est par avoir accès à des sources, avoir accès à des vidéos, et d'en rendre compte pour essayer de rendre public des choses qui sont importantes et qui méritent de l'être.
Aussi, quand je t'avais posé la question, tu m'avais répondu, c'est intéressant de citer, le fait que dans votre démarche, vous voulez laisser ouvert vos méthodes d'investigation. Je vais te citer, c'est étonnant, mais tu m'as dit, il ne s'agit pas seulement de montrer un crime d'État, mais aussi de rendre visible et de partager la façon dont nous produisons les preuves. Ces enquêtes sont politiques par nature, mais dans aussi la manière de restituer votre travail, quoi.
Souvent, en tout cas, c'est sûr que dans le cas des enquêtes, surtout à partir des sous-ouvrages, parce que parfois, comme c'est le cas par exemple dans celle-ci, bon, il y a certaines sources qu'on doit garder secrètes parce que c'est des sources journalistiques et des gens qui acceptent de nous parler. Donc on va s'en tenir au secret des sources, ce qui est normal, et on rend public des choses. Quand les choses viennent du monde de sources ouvertes, ce qu'on appelle les sources ouvertes, c'est principalement les vidéos issues des réseaux sociaux, les images ou des données. Effectivement, nous, en tout cas, dans les vidéos et les reportages qu'on fabrique ensuite, on fait cette démarche-là, en tout cas, de montrer comment, souvent, autant que possible, de montrer comment on en est arrivé à tirer telle conclusion sur telle affaire. Je pense qu'en tout cas, c'est efficace, en fait. C'est aussi parce que c'est convaincant. C'est-à-dire, au moins, vous pouvez refaire la démarche vous-même. Ben voilà, on a pris ces trois vidéos que vous pouviez trouver sur les réseaux sociaux en cherchant, et en les assemblant, voilà les conclusions à laquelle on peut tomber. Et ouais, je me suis perdu dans ce que je voulais dire.
Il y a un petit point aussi sur lequel on essaye, enfin, pas de se différencier parce que c'est pas le but, mais c'est l'idée aussi dans des vidéos comme celle qu'Antoine avait fait sur, sur les gilets jaunes, sur le gilet jaune qui avait été blessé. Et puis là, dans l'affaire de Villemomble, on tient aussi, on trouve important de faire parler les gens aussi, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas des fois. On tient quand même à garder la parole des frères Kébé, de la famille Kébé. Donc on leur laisse aussi raconter ce qu'ils ont vécu, et on trouve que c'est important de le rendre aussi dans les vidéos. Alors après, évidemment, c'est monté, on fait des choix de réalisation et tout, mais on trouve que si l'analyse, on trouve qu'il est important qu'il y ait de l'humain aussi dans toutes ces analyses techniques, quoi. Et dans les vidéos qu'on a fait, à chaque fois, on a essayé de laisser place au témoignage, quoi.
Donc on reviendra avec la question-réponse tout à l'heure avec le public. On te laisse la parole.
Bonsoir. Donc mon nom c'est Yoko Kalor, je suis avocate au bureau de Bruxelles. Et avec notre cabinet, on fait pas mal de dossiers de violences policières. Je voudrais d'abord attirer l'attention que la violence policière, c'est pas uniquement les cas où il y a des décès. Je pense que c'est important parce que les cas duquel on parle toujours, ce sont les cas où malheureusement quelqu'un est décédé, mais en fait il y a une violence policière qui est quotidienne dans les quartiers. Et quand je dis quotidienne, c'est vraiment quotidienne, où tous les jours des jeunes se font tabasser, soit dans la rue, soit au commissariat par la police. Et donc du coup, nous on aborde beaucoup de ces dossiers quotidiennement, quoi. Mais c'est une bataille qui est assez dure à mener parce qu'en fait on gagne aucune des batailles. Donc c'est quand même une lutte qui n'arrête pas et qui est fort difficile. Maintenant, sur la question des images, je pense qu'il est important de se poser la question, les caméras, c'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup d'images? C'est une première question qu'à mon avis, il faut se poser, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas du tout toutes les images qu'il y a et qui sont prises partout en fait. Et en général, en justice, les images sont utilisées dans des dossiers de droit commun, sont très souvent utilisées dans toute enquête ou dans tout dossier qui est amené devant un tribunal. Il y a très souvent des images ou en tout cas des PV qui expliquent ce qui a été vu dans les caméras ou dans les images de surveillance. Donc en fait, quand on parle d'images, c'est tant des caméras de surveillance qui sont étatiques, mais comme il y a aussi pas mal de caméras privées qui sont dans les magasins, qui sont devant les portes privées, etc., etc., qui sont utilisées en justice. Ensuite, il y a tout ce qui est bodycam de la police, mais ça c'est encore rare en fait, parce qu'il n'y a pas il y a que dans peu de zones qu'on utilise la bodycam. Donc en tout cas jusqu'à maintenant, moi je l'ai vu que dans un seul dossier où il y avait vraiment des images de bodycam. Et ensuite il y a aussi toutes les images d'ANPR, ce sont les images, mais ça c'est vraiment dans le cas de voitures qui sont sur la route, dont on prend les plaques, mais à travers ça on peut quand même, les ANPR, on prend les plaques pour pouvoir par exemple à Bruxelles contrôler la laisse. Quand il y a des gens, il faut avoir des voitures qui sont d'une certaine année. Si tu es au-delà de cette année ou en dessous de cette année, tu dois payer une taxe. Et donc, du coup, toute voiture qui rentre sur Bruxelles ou dans plein de quartiers, il y a des caméras NPR. Et donc, ça veut dire qu'on peut suivre toujours de tout près comment des jeunes se déplacent à Bruxelles. Des jeunes ou des moins jeunes, mais souvent dans les dossiers correctionnels, c'est des jeunes. C'est pour ça que je parle de jeunes. Mais donc finalement en fait il y a des caméras partout, vraiment partout, et donc on peut à travers les caméras vraiment trouver facilement beaucoup d'éléments de preuve, que ça soit contre des jeunes ou des gens qui ont commis des délits, mais on devrait aussi pouvoir trouver ces éléments de preuve contre éventuellement la police par exemple, hein, parce que quand je dis de caméras de la route, on voit que les derniers décès qu'il y a eu, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont eu lieu dans le cadre de course-poursuite avec des voitures policières. Donc dans ce sens-là, la NPR est quand même important. Les flashs pour la vitesse sont importants. Donc les images, ce n'est pas uniquement des images de ce qu'on a vu et que c'est filmé, effectivement, une scène qui est filmée. Mais donc, on m'a posé la question, Maud m'a posé la question, est-ce que l'image peut faire preuve en justice ? Bien sûr que oui. Hein. Donc, l'image est quelque chose qui est utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent en justice, et donc on peut facilement utiliser des images comme preuve. Le grand problème est que même si c'est des images et qu'on pourrait dire que c'est un élément objectif, ça reste quelque chose qui est subjectif. Parce que, par exemple, en droit commun, on utilise souvent les images des caméras de surveillance, mais récemment, je l'ai encore eu, allez, la semaine passée, où des jeunes étaient poursuivis dans le cadre d'une bagarre qui a eu lieu dans la rue et où on a pris des images de caméras de surveillance. Mais en fait, on prend à chaque fois que des clichés des images. Donc dans le dossier correctionnel, on ne retrouve pas toutes les images, on retrouve juste des photos de la vidéo en fait. Et souvent, elles ne sont absolument pas claires. Et donc moi, mon client me disait, mais Yoko, mais c'est pas moi sur l'image. Mais le juge lui disait, ben, moi je suis persuadée que c'est toi, parce qu'en fait les policiers ils avaient fait un PV en disant, voilà, on voit les images de la personne et on avait contrôlé cette personne quelques heures avant, et donc nous on sait que la personne avait le même training et donc c'est la même personne. Mais bon, c'est très flou, elle est très, très faible comme preuve, parce que je l'ai dit au juge, je vous invite à Clémenceau, des jeunes avec des training gris, il y en a quand même pas mal dans le quartier. Mais le juge avait quand même repris ça comme élément pour dire, ben non, j'estime qu'on peut reconnaître le jeune, alors que sur l'image, il était masqué parce que c'était en plein Covid, donc il était obligé de porter le masque. Et donc, du coup, on voit que les images sont utilisées souvent contre des jeunes, même si on estime que... Allez, même si moi, je trouve que ces images ne suffisent pas pour pouvoir prouver... Et dans ce sens-là, même en droit commun, c'est très important que des jeunes eux-mêmes prennent des images, se filment. Et donc, parce que on le voit de plus en plus, que pour pas mal de faits, on peut nous faire une contre-preuve. Hein, par exemple, j'ai un autre jeune qui était poursuivi pour avoir fait un braquage d'un Kuwait. Un truc à l'essence comme ça, où on peut acheter de l'essence. Allez, voilà, où on va prendre de l'essence pour la voiture. Et donc, quand j'ai vu le jeune en question, il était mineur, donc du coup, je peux le voir immédiatement en cellule, mais il s'était fait arrêter pour des faits qui dataient d'il y a 4 mois. Et donc, je disais au jeune, il y a des images, et effectivement, les images que j'avais vues dans les PV, encore une fois, c'est juste des photos des clichés, en fait, de la vidéo. Je dis, il pourrait te ressembler quand même un tout petit peu, parce qu'il avait un peu les mêmes traits d'image. Mais donc là, j'ai demandé au jeune, j'étais avec lui dans la cellule, et moi, j'ai de la chance. Allez, là-bas, en bas, on peut prendre notre téléphone, nous, comme avocats. Et donc, je lui ai dit, cette nuit-là, qu'est-ce que tu as fait, ou cette journée-là, parce que c'était en pleine journée, en fait. Et donc, j'ai, moi, téléchargé sur mon téléphone Snapchat, et j'ai pris le Snapchat du jeune, on a ouvert son compte et on a retourné il y a 4 mois, et en fait on a vu qu'il y avait des images de lui dans le métro au moment même. Donc je pouvais immédiatement contre-prouver au juge en disant, en fait non, vous dites que c'est lui parce que vous le reconnaissez sur l'image, mais moi je vous montre ici une image qu'il se trouvait au métro au même moment. Elle est dans le métro à Belgica au même moment, et donc du coup on a pu le juge ne l'a pas arrêté parce que justement on a pu contre-prouver avec l'image qu'on avait sur Snapchat. Mais j'ai eu de la chance dans le sens où j'aurais pu ne pas descendre en cellule, ne pas prendre mon téléphone pour télécharger Snapchat, parce que le jeune en question, son téléphone avait été saisi par la police, et donc pas moyen via son téléphone de le prouver au juge. Donc un autre avocat qui n'aurait pas pris la peine d'aller le voir en bas, d'aller faire ce contrôle dans son téléphone, il n'aurait pas pu prouver, ou en tout cas elle n'aurait pas fait, et donc du coup la personne aurait été arrêtée. Mais donc des images, oui, ça peut être une preuve, mais on doit faire attention parce que cette preuve, encore, allez, moi j'estime qu'il y a quand même des éléments qui sont subjectifs et qu'on ne peut pas toujours... être sûr de ce qu'il y a sur les images, et on peut, ils sont souvent, je trouve, utilisés contre les jeunes en justice. Et on voit en fait que quand il s'agit de la police, c'est l'inverse. On voit que tout d'abord, on doit constater qu'en fait c'est très difficile pour trouver des images de violences policières qui viennent de la police. Donc j'ai eu un jeune qui a été arrêté aussi pendant la période Covid et il disait bah, « j'ai subi vraiment de la violence ». Mais on n'avait que des images de la caméra qui était sur la place devant la gare de Schaerbeek. Et en fait, c'est des caméras qui tournent. Donc, on a à chaque fois qu'une partie des images. Donc, on a 30 secondes ici, 30 secondes là-bas, 30 secondes. Et donc, du coup, on ne voit pas toujours toute la scène. Et ce qu'on voyait, c'est que le jeune, il est avec la police dans un arrêt de bus. Et puis, on voit que le jeune est par terre avec le flic dessus. Mais... les flics disaient, ben, entre-temps, il a utilisé de la violence. Et il faut savoir qu'en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas en Belgique, il y a un article de la loi sur la fonction de police qui permet à la police d'utiliser de la violence. Et donc, il faut que cette violence, elle soit légitime, elle soit proportionnelle et elle soit nécessaire, mais en soi, ils ont le monopole de la violence. Et donc, dans ce sens-là, les policiers, à chaque fois, ils disent « Ben oui, mais en fait, la violence qu'on a utilisée, elle était légitime parce que le jeune était agressif avec nous. » Et donc, là encore, les images qui étaient données par la police, déjà, premièrement, c'était extrêmement difficile pour voir les images en réel. Hein, donc, ils avaient juste de nouveau ajouté quelques photos dans le dossier, mais on n'avait pas laissé des CD-ROM de l'heure où ça s'est passé. Et donc, j'ai dû demander au juge, on a dû demander une remise pour pouvoir avoir accès au CD-ROM. Le premier CD-ROM qui a été joint, les images n'étaient pas dessus. Donc, on a dû redemander au juge pour qu'il y ait à nouveau le CD-ROM soit redonné. On ne savait pas les lire, etc., etc. Donc, c'était hyper compliqué pour pouvoir voir. Mais puis, comme je vous dis, ben, on ne voyait qu'à chaque fois les 30 secondes des images. Et on a eu de la chance que ce jeune en question, il y a un autre jeune qui a filmé de nouveau la scène et qui a pu, donc du coup nous on a pu apporter une clé USB au juge pour dire ben, regardez ce petit film où on voit en fait que c'est le jeune qui se fait agresser par la police et que c'est pas du tout le jeune qui agresse la police. Et donc on a vu que tout le dossier pénal qui était fait était un dossier qui était monté contre le jeune avec les images utilisées contre le jeune et que tout ce qui était en faveur du jeune n'était pas utilisé. Et là, de nouveau, on a eu de la chance que c'est un jeune qu'un autre jeune a filmé et qu'il a mis immédiatement sur Snapchat. Ce qui fait qu'on avait encore les images et qu'on a pu les utiliser en justice et que le jeune en soi a été acquitté. Parce qu'il faut savoir que là, ce qui se passe en Belgique, c'est que, en fait, déjà, allez, en Belgique, ici en tout cas à Bruxelles, ce qui se passe, c'est que plein de jeunes se font tabassés par la police et quand les policiers se rendent compte qu'en fait ils ont peut-être été trop loin, en fait ils dressent un PV de rébellion. Et donc dans énormément de cas, nous on se voit devant le tribunal de police, pas parce qu'on a porté plainte contre la police, parce que plein de jeunes ne veulent pas, n'osent pas porter plainte contre la police, mais parce qu'en fait ils sont poursuivis en rébellion alors que c'était eux la victime de la violence policière. Et donc, pour ce jeune en question, il était poursuivi en rébellion et on a été acquitté parce qu'on a pu apporter cette petite scène où un autre jeune a filmé le jeune. Mais on aurait pu très bien être condamné si on n'avait pas ces images-là. Donc, dans ce sens-là, l'image importante pour la preuve, mais utilisée souvent contre les jeunes et très rarement contre les policiers, parce que, par exemple, dans le dossier de Sabrina Awassim, qui est une course-poursuite de policiers qui ont fait une course-poursuite de deux jeunes gens qui étaient sur une moto, et donc le jeune garçon qui était au volant... a décidé de ne pas donner suite à l'ordre de la police qui s'arrête. Et donc, alors que la police était intervenue parce qu'il ne portait pas de bottes de protection. Et donc, les policiers ont estimé que c'était assez lourd que pour intervenir et de commencer une course-poursuite. Donc, il y a une course-poursuite qui a été entamée. Et ils ont été dans le tunnel de Louise, ils ont été jusqu'à Poulart, ils sont retournés. Je ne sais pas, tout le monde me pose toujours la question, mais pourquoi Wassim ne s'est pas arrêté? Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas arrêté, mais en tout cas, le fait de ne pas s'arrêter, pour moi, ça ne vaut pas qu'on peut tuer quelqu'un. Mais donc ce garçon, il n'a pas arrêté. Et les policiers, ils ont un des policiers qui était dans le bois de la Cambre avec son chien. C'était une brigade canine. Il a entendu qu'il y avait une course-poursuite. Et donc il s'est rendu aussi au lieu où il y avait la course-poursuite. Et il a décidé de se mettre juste à la sortie du tunnel pour que, pour soi-disant arrêter la moto. Mais comme la course-poursuite, elle était très, très, très vite, il y avait 100, les policiers roulaient à du 140 à l'heure. On a pu voir ça avec le flash des tunnels, que les policiers roulaient à du 140 à l'heure, donc la moto aussi. Et la voiture était, elle s'est interposée en fait sur la route à la sortie du tunnel, mais donc la moto ne pouvait pas voir la voiture de la police, ce qui fait qu'il lui est rentré dedans en fait. Et tant Wassim que Sabrina sont morts, Wassim sur le coup, Sabrina elle est morte 2 heures après. Mais donc sur cette image là, pour cet accident là, et c'est quand même vraiment très important parce que la version du policier qui s'est mis à travers la route, il dit qu'il était plus loin. On ne sait toujours pas maintenant où est-ce qu'était cette voiture, est-ce qu'elle était visible ou pas par Wassim, est-ce qu'elle a fait une marche arrière ou pas, parce qu'il y a des témoins qui disent qu'il a fait marche arrière, etc., etc. Et tout ça, on ne le sait pas. Et en fait, il y avait 4 caméras sur les 4 coins de la sortie et de la rentrée du tunnel, parce qu'en fait c'est un tunnel qui va dans les deux sens, donc c'est vraiment un gros truc quoi. Et du coup il y avait 4 caméras, et aucune des 4 caméras selon les policiers fonctionnait. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en réalité, et en fait c'est très difficile pour nous de pouvoir reconstruire, parce qu'il y a eu un expert qui est venu sur les lieux immédiatement, mais il a fait une expertise qui ne ressemble à rien, donc il ne met pas où la voiture était exactement stationnée, etc., etc. Et donc là, les images vidéo auraient pu être hyper, hyper utiles, mais on ne le sait pas, parce qu'ils disent que les caméras étaient cassées, mais on ne sait même pas surveiller ou vérifier si effectivement c'était cassé. C'est les policiers qui le disent, et c'est eux qui sont les enquêteurs de la chose, donc c'est vraiment problématique que les images qu'ils ont alors, on les a. Que je pense qu'ils ont, en tout cas, on n'a pas accès à ces images, ou ils les détruisent, ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, là, pour Sabrina Wassim, on n'a aucun élément objectif, si ce n'est qu'ils sont tous les deux morts, quoi. Mais donc, c'est quand même assez problématique. On a ça pour un autre jeune où il y a aussi une course-poursuite. Et heureusement, le garçon, il n'est pas mort, mais il aurait pu être mort. Là aussi, j'ai demandé des images. Il faut savoir qu'il y a eu l'accident. Le lendemain, j'ai fait toutes les lettres au chef de corps, à la bourgmestre, au parquet, tout pour que les images soient gardées. Et puis, je porte plainte pour le jeune, parce qu'il était quand même aux soins intensifs, donc il était vraiment gravement blessé. Il était bloqué en dessous de la voiture. Je porte plainte et 2 ans après, on reçoit une convocation, nous, en disant que c'est nous qui devons comparaître devant le tribunal de la police, parce que c'est nous qui avons créé l'accident, alors que c'est une course-poursuite. Allez, c'était même pas une course-poursuite. En fait, mon client, il savait même pas qu'il y avait les flics derrière, donc c'était vraiment n'importe quoi. Et là, j'ai demandé les images aussi, et donc du coup, ils ont joint les images au dossier, mais de nouveau, c'est en fait un PV comme celui-là qui est décrit là. Hein. C'est des PV, des policiers qui prennent des, comment on appelle ça, des croquis, des captures d'écran, et qui alors décrivent comment la chose se déroule. Par exemple, dans ce dossier-là, c'est important parce que le jeune disait, bah, en fait, j'ai pas du tout entendu cette voiture et j'ai pas du tout vu non plus la voiture. À mon avis, il n'y avait pas de feu bleu parce qu'il faisait noir, c'est la nuit. Mais donc, du coup, les policiers, ils disent, ils prennent que quelques photos. Entre autres, la photo a été en noir où tu vois que les feux ne sont pas allumés. Et puis la photo quand l'accident est déjà fait, où tu vois que les feux sont allumés, les feux bleus sont allumés, mais en fait, entre, on voit pas. Et donc, du coup, j'ai demandé à ce que je puisse visionner toute la vidéo. Et maintenant, ça fait déjà 2 fois que l'affaire a été remise, parce qu'une première fois, ils nous ont joint le CD-ROM. Et c'est des CD-ROM où on voit l'image, une seule image, mais puis elle est figée. Donc, on ne voit plus, on peut avancer dans le temps, mais en fait, elle reste figée sur cette image. Et donc, j'ai redemandé une deuxième fois, donc ça a été remis. Et alors, il me disait, oui, ça a été joint. En fait, c'était les mêmes CD-ROM, donc il n'y avait rien qui a été joint. Donc maintenant, ça a été remis une troisième fois de nouveau pour pouvoir porter, allez, pour que moi, je puisse avoir accès à ces preuves. Ce PV-là, c'est aussi un PV d'une personne qui a été assassinée. Non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas mort, heureusement. Mais il est lourdement blessé quand même. C'est un SDF qui... dormait tout près de la gare du Nord, et donc les policiers, ils avaient reçu l'ordre de réveiller les SDF et qui dégagent. Hein. C'est comme ça que les flics le disent aussi, dégagez, dégagez. Et la personne qui était un peu à la masse, comme pas mal d'SDF, ils sont malades, ils sont pas bien dans leur tête, ils sont fatigués, ils ont peut-être des fois bu. Et donc ce monsieur, il a 50 et des années, et donc il s'est réveillé, il était fâché qu'on le réveille comme ça. Et donc là aussi, il s'est assis sur une chaise, et il a dit, moi je ne veux pas bouger. Il a pris son cutter, ce n'est pas un cutter, une opinel, et il a dit, je ne bouge pas. Et finalement, les flics, ils l'ont quand même poussé, et donc il a fait un geste avec sa main, ce qui fait qu'il a touché légèrement, mais vraiment légèrement, un policier dans le visage. Et donc un autre policier, il a tiré trois fois dessus. Ce monsieur, il était presque mort, donc il a été sauvé à l'hôpital. Mais là, c'est lui qui a été poursuivi pour tentative de meurtre sur le policier avec le couteau. Donc lui, il a eu 6 ans de détention de prison. Il est en prison encore maintenant. Alors que le policier en question, nous on avait porté plainte contre le policier, et là ça a été un classement sans suite parce que la force qui a été utilisée était suffisante, était proportionnelle à la force utilisée par les garçons, allez, par les messieurs. Et donc là aussi on n'a pas eu les images, on a juste eu les audios, mais ils ont fait un PV des images, mais nous-mêmes on n'a jamais eu accès au PV, aux images même. Et donc là, par exemple, sur l'audio, on entend quand même, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des audios et d'avoir des images. Le policier, normalement, quand il utilise une arme, il doit avertir. Donc il doit sommer, ou comment on dit,
sommation.
Il doit faire une sommation pour dire, voilà, je vais tirer. Et donc il dit qu'à chaque fois, il a fait une sommation entre les 3 balles, alors que quand, sur l'audio, on entend vraiment bouf, bouf, bouf. Donc on entend que c'est les 3 balles qui ont suivi l'une derrière l'autre et qu'il n'y a pas eu de sommation du tout. Donc en fait, les images, et même ici dans le cas, les audios sont ultra importantes, mais en même temps, on n'a pas assez accès à ces images-là. Et c'est comme c'est eux qui ont... le monopole aussi sur l'enquête, ils n'ont pas seulement le monopole sur l'audience, sur la violence, mais aussi le monopole sur l'enquête. C'est très difficile pour nous de pouvoir apporter des preuves de l'inverse. Et donc, du coup, pour tout ce qui est violence policière, nous, on dit quand même énormément, on essaye aux jeunes de dire, il faut filmer. Mais il faut savoir que c'est très difficile, en fait. Déjà pour une fille blanche, gentille, filmer, les flics sont assez agressifs en disant il faut arrêter de filmer. Pour des jeunes de quartier, filmer, c'est extrêmement difficile en fait. On voit maintenant pas mal d'images de jeunes ou de personnes qui se trouvent sur le balcon par exemple, et les flics ne se réalisent pas qu'ils sont en train de filmer. Mais pour des jeunes même de filmer, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait ça crée une tension encore plus grande, et donc ils risquent de se faire tabasser encore plus quand ils sont finalement arrêtés, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui finalement se font arrêter et donc se retrouvent au cachot et donc se font tabasser ou subissent des fouilles à nu ou ce genre de choses. Mais donc pour des jeunes, pour filmer, c'est quand même chaud. Mais du coup, on le dit quand même qu'il vaut mieux filmer, allez, qu'on espère que les jeunes filment. Mais du coup, souvent, en fait... Les téléphones sont ensuite saisis par la police. Et donc, même pour, par exemple, une rébellion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, une rébellion, en fait, pas besoin de saisir un téléphone. Tu peux saisir un téléphone parce que tu as utilisé ton téléphone dans une deal de stup ou ce genre de choses. Besoin d'avoir les contacts et tout dans le téléphone, là, c'est... Mais pour une rébellion, pas nécessaire de saisir le téléphone, mais ils le font quand même, parce qu'alors, ils ont les images de quand quelque chose est filmé. Et donc, nous, ce que je dis maintenant aux jeunes, c'est apparemment, c'est possible via Instagram ou via Snapchat de filmer et que ça reste quand même aussi dans ton Snapchat. Et du coup, comme l'autre jeune, bah, après, moi, je peux ouvrir son Snapchat, par exemple. Donc, c'est important parce que j'y ai regardé avec... j'ai eu le frère de Mehdi, qui est aussi un jeune qui est mort suite à une intervention policière. Il voulait faire la même chose qu'en France, à savoir qu'il y a une application que tu peux filmer et qu'en fait, les images vont immédiatement dans un cloud. Mais en fait, la pression, c'est très compliqué de l'organiser parce que déjà, il faut respecter toute vie privée, GDPR, toutes les règles qu'il y a pour respecter la vie privée. Mais en plus, pour pouvoir stocker ces images, c'est aussi compliqué et c'est cher. Donc la solution, c'était qu'on avait éventuellement un serveur aux États-Unis pour pas qu'on soit lié à toutes les règles et que pour pas qu'on puisse faire une procédure contre nous parce qu'on garde des images. Mais là, il faut encore payer plus et donc en fait, c'est juste impossible. Le risque que quelqu'un prend en lançant cette application, en fait, il prend plein de risques pour sa personne, donc c'est vraiment compliqué. Et donc du coup, on a abandonné parce que c'était trop compliqué. C'est quand même important. Et dans ce sens-là, nous, bah, moi, je dis vive Snapchat et Instagram de quand même avoir ce genre de données un peu. Mais c'est vraiment problématique parce qu'il y a beaucoup de policiers qui prennent les téléphones. Récemment, il y a une avocate qui m'a contactée parce qu'elle avait entendu sur l'affaire Sabrina Wassim. Et donc, elle avait dit qu'elle avait un dossier qui était un peu similaire. Ou c'est déjà... Allez, qui était encore pire. Il y a pas de, on peut pas comparer, mais c'était deux jeunes qui étaient sur un champ et ils avaient été les policiers les soupçonnaient d'avoir volé une voiture et donc ils étaient à pied, les deux garçons, ils ont couru, la police les a poursuivis avec une camionnette, la camionnette a roulé sur un des deux et l'autre garçon a filmé ça et du coup les flics sont sortis de la camionnette et ils se sont ils ont été vers l'autre jeune pour pouvoir prendre son téléphone, donc ils ont couru, le jeune il a couru et ils ont couru derrière pour pouvoir prendre le téléphone pour qu'il n'y ait pas d'image et entre temps l'autre garçon il est mort sous la camionnette en fait et donc du coup c'est vraiment, voilà, c'est problématique en réalité mais donc tout ça pour vous dire que l'image elle est importante mais c'est vraiment pas évident, les images peuvent toujours être interprétées. Elles sont utilisées comme on le veut. Les policiers joignent ou joignent pas. Les PV sont faits comme eux le veulent. Ils interprètent les images comme eux le veulent. Et si les juges veulent interpréter l'image en disant « Oui, moi, je suis persuadée que ça, c'est un jeune qui a commis un fait ben, », alors tu l'as aussi dans la gueule, en fait. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même vraiment pas évident et que l'image en soi est une solution, mais n'est pas non plus la solution à tout.
Et juste quand t'arrives toi avec une vidéo qu'on t'a transmise, que les jeunes ont filmée et ont transmise, dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle peut te servir? Comment elle est regardée? Comment elle est analysée? Parce que là, t'as parlé un peu des impasses quand c'est des caméras de surveillance, mais quand c'est des...
Oui, donc pour moi, on les utilise. Mais voilà, c'est pas toujours évident parce que j'ai un autre exemple d'un jeune qui s'est vraiment grave, fait jeter grave par les flics, mais vraiment grave. Mais sur l'image, on voit qu'il jette un sac qui venait de voler, en fait. Et donc là, on a décidé de ne pas joindre le petit film parce qu'il voilà, il voulait pas non plus être poursuivi lui-même pour avoir volé ce sac. Et donc, on doit toujours faire quand même un peu attention aux images qu'on joint parce que ça peut être aussi un élément qui est à charge de la personne en question. Et puis, ben voilà, on nous dit toujours que ben, c'est un problème parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, ni ce qui s'est passé après, peut-être que le jeune... Mais en soi, pour la scène de violence elle-même, je trouve que c'est quand même utile parce que là où on peut dire que les policiers peuvent utiliser de la violence, certes, mais elle doit être proportionnelle et subsidiaire. Il faut que ça soit le dernier ressort, en fait. Quand on voit qu'il y a 3, 4, 5 flics sur un gars, ben, on peut quand même leur dire, bon les gars, vous exagérez un peu là, dans la violence que vous utilisez. Et donc, moi, je trouve vraiment, quand il y a des images, on peut les joindre au dossier et on les donne au juge qui doit juger. Hein. Donc, on montre des fois, allez, on peut essayer de le montrer via l'ordinateur, mais ils ne veulent pas toujours qu'on fait ça. Mais donc, en tout cas, oui, on les utilise. Encore un truc pour un bodycam. Allez, pour vous dire comment ça peut être utilisé ou pas utilisé, j'étais dans une audience et c'était pas mon dossier à moi. J'étais en train d'attendre pour plaider. Et il y avait un dossier avant moi où il y avait un jeune qui était poursuivi pour rébellion. Et le policier, il avait une bodycam. Et en fait, on voit la scène qui s'est passée, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, le jeune, son avocat disait, en fait, c'est lui qui s'est fait tabasser, ce n'était pas l'inverse. Mais juste cette scène importante, en fait, les flics disent dans leur PV, juste à ce moment-là, la bodycam, elle tombe en panne. Et donc, jusqu'à 20 secondes avant la scène et 5 secondes après la scène, et puis elle recommence à fonctionner, la bodycam. Mais donc, du coup, une bodycam, certes, mais c'est vraiment dangereux parce qu'en fait, la bodycam, c'est les flics qui eux-mêmes décident quand est-ce qu'on l'allume et quand est-ce qu'on l'allume pas. Donc, c'est plus que problématique. Donc, oui, si on veut avoir la bodycam, mais alors il faut qu'elle soit, dès que le policier rentre en service, il faut qu'elle soit activée et que du coup, elle continue à être active jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais sinon, c'est quelque chose qui est aussi objectif, allez, subjectif comme ça peut l'être, comme les policiers nous disent à nous, ou les juges nous disent à nous, mais vous n'avez peut-être pas tout filmé, il y a une partie de la scène que vous n'avez pas filmé, c'est pareil pour les bodycams. Donc voilà, en tout cas, et il faut aussi avoir des juges qui sont ouverts à la décision, à l'idée, ok, je vais visionner une image, hein, par exemple le jeune dont je parle d'Escarbec. Le jeune qui filme, il est en train d'insulter les flics très fort. Donc il dit, oh, fils de pute, je suis en train de te filmer, hein, je suis en train de filmer, sale fils de pute. Et donc, c'est pour un juge, ça peut être quelque chose. Ouais, écoute, c'est bon, s'il parle déjà comme ça, ça vaut pas la peine. Allez, et donc, c'est toujours compliqué, quoi. C'est vraiment toujours compliqué. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, il faut l'utiliser quand on peut. Maintenant, je pense que il faut le travail que vous faites, je trouve que c'est d'autant plus important, peut-être pas pour gagner en justice, parce que moi, je ne crois pas trop à allez, j'espère bien sûr qu'il y a des condamnations et que finalement, ça va s'arrêter. Mais franchement, la justice, c'est quand même une partie de l'appareil étatique. Et comme la police est une partie de l'appareil étatique, et donc moi j'ai pas trop confiance en la justice, que la justice pourra résoudre ce problème à travers des condamnations, ce qui veut pas dire qu'on mène pas le combat contre l'impunité, hein. Mais je pense que du coup les images peuvent être extrêmement utiles dans tout ce qui est débat public, parce qu'au moins ça, on peut se rendre compte que hein, comme vous dites que vous venez d'un petit bled où on ne fait pas face, allez, on ne voit pas ce genre de choses, chez nous à Bruxelles, on voit ça tout le temps, mais dans des petits villages, effectivement, on ne voit pas ça. Et si alors ils voient la réalité de ce qui se passe, ça peut quand même faire avancer un peu la pensée, les idées sur ce que fait la police. Et donc, même si ce n'est pas utilisé en justice, les images sont quand même importantes pour l'opinion publique, quoi. Il y a encore une chose juste que je voulais dire par rapport à ça aussi. Parce qu'on m'a aussi posé la question, est-ce que des images peuvent être utiles? Quand on a vu le dossier tant de Chovanec, c'est le monsieur qui s'est fait assassiner par la police, c'est la bonne femme qui fait un Hitlerjugend.
Je te le dirai.
Oui, qui tend son bras là. On a ces images-là. On a l'image de 7 policiers ou 8 policiers qui sont assis sur le monsieur et qui meurent. Et puis, on a un rapport d'un médecin légiste qui dit, ouais, en fait, il est mort d'une crise cardiaque. Ok. Donc, il n'est pas mort à cause de la violence policière. Mais en fait, c'est vraiment ridicule. Et donc là, on voit vraiment que tu as les images du décès du monsieur. Et puis, on a quand même un rapport légiste pour répondre à ce décès en disant, en fait, ce n'est pas ça qui a créé sa mort. Ce n'est pas la violence. C'est en fait le fait que lui et sa santé n'était pas bonne. Et on a vu ça aussi, c'est Jonathan. C'est un autre jeune garçon qui est décédé il y a quelques années à Anvers. Et c'était tout à fait la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu une bonne femme qui a fait un signe littéraire, mais finalement, la scène était vraiment pareille. Et là aussi, on disait...
Son papa.
Oui, le papa, il a fait toute une procédure, mais je veux dire, là, les flics n'ont pas été condamnés non plus. Il a été jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais donc, du coup, on voit vraiment là aussi où ils essayent, à travers de alors d'autres moyens pour répondre aux images qu'ils ont, qui sont quand même très claires, en disant « Ah oui, mais non, en fait, il y a un médecin légiste qui a dit que c'est quand même pas ça qui a causé la mort. » Et donc, on voit que les images sont utiles, certes, mais c'est pas, en justice, c'est pas non plus ça qui va faire à ce que tout le monde qui utilise la violence, et tous les policiers qui utilisent la violence soient condamnés.
Merci.
À mon tour, alors. Donc, je remercie les organisateurs pour leur intervention et j'ai une pensée particulière pour Mehmoun, Saïd, Semira, Karim, Faisal, Jonathan, Suleiman, Dieu merci, Wassim et Sabrina, Joseph, Lamine, Maouda, Mehdi, Adil, Akram, Ilyes, Ibrahima et toutes les victimes du racisme d'État dont nous ignorons l'histoire. En France, c'est 17 morts par an pour une population de 67 millions. En Belgique, c'est 3 par an pour une population de 11 millions. On est donc à même niveau. Je vous parle aujourd'hui mandaté par le comité Justice et Vérité pour Lamine Bangoura, pour lequel j'ai préparé ce texte avec Véronique Kled-Gakouba et en présence de Jean-Pierre. Je vais commencer par vous exposer l'analyse qui fonde l'existence, la pensée et les actions de Bruxelles Panthère. Mon organisation. Et pour les deux derniers points, certainement du comité Justice et Vérité pour Lamine Bangoura. Je vous parlerai ensuite, comme l'a demandé Maud, que je remercie pour l'invitation, autour de la thématique des images de violences policières en retraçant leur généalogie, l'écosystème qui influe sur leur réception et leur potentiel impact. Premièrement, il nous a semblé important de commencer par expliquer la pensée décoloniale, le concept racial et ainsi vous avoir défini formellement d'où l'on parle. Nous pensons que le projet civilisationnel occidental moderniste qui s'est répandu à travers le monde par la colonisation a mis en place à un niveau global une classification et une hiérarchisation raciale des êtres humains dans lequel certains sont supérieurs et d'autres sont inférieurs. Quel que soit le domaine observé, savoir, science, économie, politique, l'Occident se voit et est par la force, s'il le faut, supérieur au reste du monde. Il existe bien sûr des variantes dans l'application de cette hiérarchisation, selon l'endroit où l'on se trouve, selon que celui-ci a été colonisé ou pas, et s'il a été colonisé, de quelle manière. La définition de noir, arabe, musulman ou de blanc n'est pas partout la même. Cette hiérarchisation n'est bien sûr pas l'apanage des blancs, mais dans tous les cas, c'est le modèle occidental qui reste l'étalon. En fonction de votre place dans cette hiérarchie, vous vous retrouvez soit dans la zone d'être, soit dans la zone de non-être. Soit vous êtes des êtres humains, soit vous êtes des sous-humains ou des non-humains. La différence entre les zones d'être et de non-être se manifeste par la manière dont les conflits se déroulent et les réponses qui apportent le pouvoir. Dans la zone d'être, les réponses du pouvoir sont généralement pacifiques et sont exceptionnellement violentes. Pour illustrer ceci, Valérie, gazée, arrêtée et détenue lors de la manifestation contre les restrictions sanitaires le 23 janvier 2002 à Bruxelles, témoigne. Ouvrez les guillemets. Je suis profondément choqué, heurté, scandalisé de voir comment on inflige ce traitement injuste à d'honnêtes citoyens. Je n'aurais jamais cru un instant être victime d'une telle arrestation arbitraire et injustifiée en Belgique. C'est vrai qu'il est tellement plus facile d'arrêter par centaines de braves citoyens innocents que les vrais casseurs. Je ne sais pas c'est qui les vrais casseurs. J'ai honte pour mon pays et ses forces de police. J'en viens à penser que notre seul tort était peut-être d'avoir osé exprimer notre mécontentement vis-à-vis de la situation actuelle. C'est un témoignage que j'ai trouvé sur Obspol. Dans la zone des non-êtres, les réponses du pouvoir sont généralement intrusives, menaçantes, agressives et violentes, et semblent seulement exceptionnellement pacifiques. À peine un mois avant l'arrestation de Valérie, le 13 décembre 2021, Mohamed Amine Berkane, un sans-papiers algérien, meurt dans les locaux de la police fédérale. Un mois plus tard, 19 janvier 2021, toujours à Bruxelles, Ilyes Abedou, aussi sans papier, meurt dans les mêmes conditions dans une cellule. Entre ces deux drames, le dimanche 24 janvier, à la suite d'une manifestation qui a réuni 150 personnes au Mont des Arts contre la justice de classe et la justice raciste, la police a procédé à des arrestations administratives de 232 personnes, donc beaucoup plus que le nombre de participants, dont 86 mineurs, dont la grande majorité sont des Noirs et des Arabes et n'avaient pour ainsi dire rien à voir avec ce rassemblement. Tous ont été emmenés dans les cellules de la police fédérale à Etterbeek. Tous les témoignages concordent et nous disent que les Noirs et les Arabes ont été enfermés dans des cellules séparées et davantage maltraités. Beaucoup témoignent de cris, de coups, d'injures, d'humiliations, de propos et de comportements violents, racistes, sexistes et homophobes. Les zones d'être et de non-être ne sont pas des positions géographiques ou spatiales. Ce sont des positions dans une hiérarchie qui détermine les privilèges accordés à ceux et celles qui sont en haut de l'échelle et les violences prescrites à ceux qui sont plus bas. Les élites occidentalisées, déjà mentionnées, sont dans la zone d'être, alors que leur population ne l'est pas. De la même manière, en Occident, les Noirs, les Arabes, musulmans, bien que jouissant de plus de privilèges que les gens du Sud, sont dans la zone de non-être. Pour Bruxelles, contrat de sécurité et de prévention, plan canal, politique migratoire, camp d'enfermement, joliment appelé centre fermé, violence policière, ségrégation scolaire, décision judiciaire, logement, emploi, loisirs, dans tous les domaines, ceux qui sont en Occident, avec ou sans papier, classés dans la zone de non-être, sont soumis à des politiques étatiques, donc structurellement différentes. Démocratie et citoyenneté pour les êtres, d'un côté, racisme d'État et violence pour les non-êtres, de l'autre. Le critère opératoire de cette hiérarchisation entre être et non-être, entre humain et non-humain, c'est la race. Mimoun, Semira, Karim, Faisal, Suleiman, Dieu merci, Wassim et Sabrina, Lamine, Maouda, Mehdi, Adil, Akram, Ilyes, Ibrahima sont morts entre les mains de la police, bras armés du racisme d'État, et nous pensons que s'ils ont été tués, c'est parce qu'ils étaient noirs ou arabes, et qu'ils venaient donc de la zone de non-être au niveau global. Si un gamin était jeté sur les rails, si une jeune fille s'est entendue chanter « On va te couper les mains », si l'eurodéputée allemande Madame Pierrette Esbert Fofana s'est fait arrêter dans la gare du Nord à Bruxelles, si Sandou Dia perd la vie lors d'un violent bizutage, si les étudiants congolais venus d'Ukraine ne se voient pas traités de la même manière que les réfugiés ukrainiens, c'est parce qu'ils sont noirs. Pour accompagner ces actes de violence symbolique, physique et meurtrier, le système de hiérarchisation raciale, la domination blanche, s'est en outre doté de ce que Houria Boutelja décrit dans son livre « Les Blancs, les Juifs et nous », d'un système immunitaire. Ce système immunitaire lui permet de se blanchir de ses actes racistes. Nous l'avons encore vu dans la décision du tribunal d'acquitter en appel les policiers qui ont tué Lamine Bangoura. Au vu des violences policières et des décisions judiciaires qui s'en suivent, on ne peut que constater que ce que c'est l'appareil sécuritaire, c'est la pérennisation de l'ordre racial qui sévit dans ce pays. Les organisations qui prétendent lutter contre les violences policières ne peuvent en parler décemment sans parler du racisme qui les structure et les blanchit. Nous n'avons pas besoin d'observatoire contre les violences policières pour nous dire que nous savons déjà depuis de trop nombreuses années, nous n'avons plus besoin d'objectiver qu'en amont des meurtres policiers, les hommes, arabes ou noirs, ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler, tutoyer, insulter, brutaliser par la police que le reste de la population. Nous savons aussi déjà bien que les Noirs, les Arabes, les migrants sont surreprésentés dans la funeste liste des personnes mortes entre les mains de la police. Le meurtre social généralisé et l'élimination physique régulière de Noirs, d'Arabes, de migrants doit cesser immédiatement. Nous reconnaissons bien sûr que tous les autres systèmes de domination, de genre, de classe, linguistique et même artistique, si vous voulez. Nos amis de gauche pensent que ces systèmes de domination sont des épiphénomènes de la domination capitaliste, que la lutte des classes remportée, toutes les autres n'auraient plus lieu d'être puisque ces dominations disparaîtraient. Nous pensons au contraire, de notre côté, que les autres, la domination capitaliste, est constitutive de la civilisation moderniste occidentale et que le facteur qui traverse toutes les dominations, c'est celui de la domination raciale. Pour nous, la race est le principal organisateur de toutes les autres hiérarchies et la source de toutes les dominations qu'elle engendre. Nous tentons également de pratiquer un antiracisme politique et pas un antiracisme moral ou de l'aide humanitaire. Si le racisme interpersonnel peut être désagréable, violent ou même meurtrier, le racisme d'État, lui, structurel soumet en permanence l'ensemble des gens de la zone de non-être à la ségrégation, la menace, la violence et ou la mort. Pour nous, ces questions ne sont pas morales, elles sont une question de vie ou de mort. Selon nous, il faut penser les solutions sur des bases de différentes expériences historiques, ne pas s'en tenir à l'universalisme moderne et se tourner vers un pluriversalisme. On ne peut pas continuer à réfléchir en se basant sur la pensée de quelques dizaines d'hommes blancs occidentaux. Pour nous, noirs, arabes, roms, présumés musulmans, les contrôles violents, c'est notre quotidien. Depuis des générations, nous héritons de cette violence coloniale qui se matérialise par les blocages de quartiers, le contrôle au faciès, les fouilles au corps, les courses-poursuites, tout cela en amenant la création d'une politique policière mortifère. Demandez à n'importe quelle famille de Noirs ou d'Arabes combien de fois dans leur vie les membres de leur famille ont été contrôlés par la police et la probabilité est grande de s'entendre dire que c'est impossible à compter. Ces contrôles agressifs, on le sait, sont devenus la norme. Face à cela, généralement, les victimes se retrouvent seules. Le racisme est politique et c'est politiquement qu'il faut le combattre, et non pas en cherchant à changer les mentalités. Le racisme est un système, et de la même façon que Frantz Fanon le disait, la colonisation est un système. Dire que le racisme est un système, c'est dire qu'il est diffusé dans toute la société. Aucune institution dans ce pays, si on l'étudie de près, ne peut être considérée comme non raciste. Que ce soit l'école, les politiques d'aide sécuritaire ou des implicites qui les font fonctionner de manière raciste. Et je pourrais continuer jusqu'aux organisations dites antiracistes. Maintenant, je voudrais vous diffuser la vidéo de l'assassinat de Lamine Bangoura.
Je préviens quand même que c'est une vidéo qui est très dure à regarder.
Lamine Bangoura a été tué par la police le 7 mai 2018. Il aura fallu 3 ans et 7 mois de lutte acharnée pour pouvoir l'enterrer dignement. Son corps a été détenu dans un frigo d'une entreprise de pompes funèbres à Bruxelles. Le corps de Lamine a été restitué le 7 décembre et a été inhumé le 17 décembre à Bruxelles. 3 ans et 7 mois, un temps cruellement long qui a empêché la famille d'enterrer leur fils aîné, décédé après avoir subi des violences policières en 2018. Le meurtre de Lamine Bangoura par 8 policiers ne connaîtra pas de procès public. Les parties civiles sont condamnées à payer des dommages aux policiers. 25 pages de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de Gand motivent le non-lieu. Je reprends ici une grande partie de l'analyse de David Jamar. Que nous dit-il ? L'arrêt nous rappelle que le 7 mai 2018 à Roulers, un huissier de justice vient exécuter une expulsion domiciliaire, celle de Moïse Lamine Bangoura. L'arrêt de la cour relève, entre guillemets. Il ressort du témoignage de l'huissier de justice que les policiers ont d'abord sonné, mais qu'il n'y a pas eu de réaction. Après quoi, l'huissier de justice concerné a également sonné et frappé. Une fois entré, il y avait la crainte que le chien, un staff terrier, soit utilisé comme une arme. Que cette crainte soit fondée ou non, point d'interrogation. Par contre, un policier en renfort déclare « Écoute, c'est ta dernière chance de sortir. » Le jugement fait tenir la légitimité de l'action de la police, l'expulsion par la force, traduite comme légitime, et la proportionnalité de la force. Il s'agira alors d'accuser la victime, Lamine Bangoura, d'inconséquence, d'une présence le poussant à le neutraliser, et en miroir de présenter les inculpés, les policiers et policières, emplis de précautions et d'intentions innocentes. Il y a bien une vidéo filmée d'une partie de l'intervention et un PV mentionnant un débriefing entre les policiers. Pour lever le soupçon pénalisable de collusion de fonctionnaires, l'arrêt choisit la brièveté, ouvrez les guillemets. Après un décès survenu au cours d'une intervention, il est bon et normal que les policiers qui sont intervenus aient la possibilité de ventiler leurs propres émotions. Le fait qu'un débriefing ait eu lieu est une évolution heureuse. Attribuer d'autres intentions à un tel débriefing, c'est manifestement ignorer l'impact mental d'un tel événement sur les policiers. Fermez les guillemets. Les émotions de policiers, policières, la concordance des versions est blanchie et fait nombre. Ces émotions se mettent à illustrer d'autres faits. Les policiers ont été porteurs de soins. Et puis, mort, avant, après ou pendant, poule faible ou inexistant, qu'importe, indifférence à la vie ou à la mort, nécropolitique en acte. Il faut ensuite charger la victime. Ouvrez les guillemets. À cet égard, l'intéressé n'a fait aucun effort pour respecter ses droits dans cette procédure, allant même jusqu'à ne pas ouvrir le courrier annonçant l'expulsion. Par contre, les policiers ont été sensibles à autre chose. C'est l'atmosphère, entre guillemets, qui devient, ouvrez les guillemets, plus sinistre et menaçait de dégénérer. La rumeur du chien l'amplifie, autant que la présence du corps de Lamine Bangoura, par les comportements policiers. L'atmosphère doit être à charge de Lamine, car, dit l'arrêt, c'est, entre guillemets, l'atmosphère qui fait changer les policiers. Et il faut bien alors concéder les gestes filmés. Quatre policiers maintiennent Lamine sur le ventre, maintiennent son visage, d'autres lui tiennent les jambes. C'est ici que le corps de Lamine est mis en cause, ouvrez les guillemets. Bangoura agissait avec une force énorme. Les râles de Lamine deviennent pour la cour des hurlements. Il ne s'agit pas, ouvrez les guillemets, il ne s'agissait pas de cris d'aide ou de détresse, mais de cris et de hurlements. Le sous-entendu est le suivant. S'il y avait eu appel à l'aide en bonne et due forme, tout ceci aurait cessé. Corps animalisé, immobilisé mais hurlant, sauvage, puissant, la cour reprend à son compte ses poncifs négrophobes. Aucune perception de détresse, donc pas de non-assistance, mais un travail qui s'effectue. Ouvrez les guillemets. Il a fallu beaucoup de travail pour finalement mettre les menottes à Bangoura. Fermez les guillemets. Le mythe permet alors que, ouvrez les guillemets, l'agitation de Lamine, fermez les guillemets, son état corporel, ses analyses sanguines, contestées par les parties civiles, mais encore une fois fin de non-recevoir, soit probablement, puis certainement, responsable de sa mort plutôt que l'acte policier. Les policiers ne peuvent pas être racistes, dit la cour. Comment l'être face à un animal responsable d'une sinistre ambiance? La cour, contrairement aux policiers qui ont tué Lamine, avait pourtant le temps de se poser toute une série de questions. La structure de son argumentation redouble de négrophobie. Mais alors, pourquoi la famille a-t-elle poursuivi son combat? Si ce n'est qu'elle se laisse, entre guillemets, trop facilement entraîner dans un mouvement où presque chaque action policière contre des personnes d'origine différente est considérée comme étant inspirée par le racisme, sans se soucier de l'expérience traumatisante des policiers. Les parties civiles peuvent alors être décriées comme insensibles, soumises à un esprit du temps que la cour invente antiraciste. Elles auront à en payer les dommages. Ces images montrent que l'assassinat de Lamine Bangoura n'ont pas suffi à convaincre de la culpabilité des policiers qui l'ont tué. Il semble même qu'au contraire, les images aient servi à rendre Lamine responsable de sa propre mort. À la place des râles d'agonie, les avocats des policiers parlent de rugissement. Lamine Bangoura est présenté non pas comme étant en train de se faire lyncher, mais comme constituant une menace pour les policiers. Pour comprendre qu'une telle lecture de l'image soit possible, il faut tenir compte sérieusement de ce fait. Le regard profondément et hystériquement raciste qui est posé sur ce corps noir. Le regard du blanc. Le regard du blanc, ce n'est pas un acte de perception directe, neutre. Tout sauf ça. Le rugissement, c'est le résultat d'une production raciale du visible, celle des policiers, qui va convaincre leur avocat, qui va convaincre le juge, qui va convaincre les journalistes. Lamine Bangoura plus Lukaku que Messi, titre le soir. C'est un regard historiquement façonné par un schéma raciste. C'est une manière d'entrer en relation perceptive, esthétique et émotionnelle avec les corps noirs. La question qui devrait être posée par le juge, c'est qui a filmé les images et à partir de quel moment et pourquoi. C'est une question essentielle pour connaître l'orientation des images en termes de lecture, qui sera rendue plus ou moins possible par la suite, au vu de ce regard raciste. Il est fort à parier que ces images ont été prises précisément après le moment où les policiers sont effectivement en train d'assaillir la mine. Ce sont des images qui ne montrent pas l'acte inaugural des policiers, le moment d'attaque, lorsque les policiers décident de l'agresser avec, non pas la légitime défense comme motif, mais avec la seule intention de l'agresser, voire de le tuer. Tout ce qui précède et qui n'apparaît pas sur les images laisse au regard blanc toute la latitude pour se déployer sa lecture raciste des images. Toutefois, les images sont utiles, à condition de les lire avec une grille de lecture qui oppose une critique de la race. Une grille de lecture qui observe et qui analyse des schèmes comportementaux blancs en prise avec le racisme. Par exemple, ce policier qui regarde par la fenêtre innocemment pendant que les policiers sont en train de tuer Lamine, qui soi-disant représente un danger. Si Lamine représentait un danger, comment se fait-il que ce policier se tient à distance dans une posture totalement passive, qui n'est pas inquiet pour ses collègues, ne montre aucun signe d'état d'alarme? Dans cette posture, il a tout l'air d'un complice silencieux, assistant à un meurtre racial et n'a absolument pas l'air d'accomplir une mission policière face à un individu dangereux. Les policiers qui sont au-dessus de Lamine, on ne voit pas leur visage, mais certainement qu'ils affichent un visage de meurtrier. En affichant les traits comme ceux qu'on le reconnaît sur le visage de Derek Chauvin quand il est en train de tuer George Floyd. Pour voir ces hommes comme des meurtriers et des suprémacistes meurtriers et non pas comme des policiers, il faut une critique de la race qui reconnaît les affects blancs, tous les affects blancs, des plus minimes en apparence inoffensifs, le rire du blackface, au plus criminel, l'impulsion de tuer du nègre, qui façonne le regard et les comportements blancs envers les personnes noires. Aux États-Unis, cela semble possible. Ils ont une longue histoire avec ces images. En Belgique, en Europe, on se protège de cette vision critique de la race pour ne pas désacraliser l'image morale des blancs. Les images sont nécessaires, mais leur interprétation est nécessairement objet de lutte. Pour l'instant, les juges sont du côté des lectures hégémoniques racistes des images. Il convient d'imposer l'idée de la non-neutralité des images étant donné les schèmes racistes qui imprègnent le regard blanc. Dans cette lutte, il faut alors venir des experts. Les tribunaux aiment bien parler des experts, par exemple. Un expert de la voix pour faire valoir qu'il s'agissait bien de râles d'agonie et non pas de rugissement. Faire venir des psychologues noirs qui déconstruisent la lecture raciste des images. En Belgique, les affaires judiciaires suite aux plaintes déposées par des familles de victimes pour des crimes policiers racistes s'accumulent. Les non-lieux se succèdent, laissant les familles de victimes endeuillées, sans justice ni réparation. Ce qui veut dire que 9 policiers sur 10 ressortent blanchis par la justice des crimes et délits qu'ils ont commis. Face à la répression, à la police, à la justice, il devient nécessaire de s'organiser. S'organiser, ce n'est pas aider les autres qui en auraient besoin. C'est se retrouver à partir de ce qu'on vit, se tenir concrètement et faire face ensemble. Un travail à la fois juridique et politique de transformation du droit pénal à partir de l'ensemble des cas de jeunes noirs et arabes assassinés par la police pourrait être produire, par exemple, inscrire le mobile raciste comme cause de ces mises à mort. Sans en prendre la mesure, on ne peut que reproduire la violence sur les victimes en allant chercher chez elles, dans leur vie, des circonstances atténuantes pour le meurtre du policier. Le meurtre policier. Il est dès lors crucial de poser toutes les questions sur les circonstances des différents meurtres policiers, publiquement, au-delà des réquisitoires de non-lieu formulés par les parquets et suivis par les chambres du Conseil et des mises en accusation de ce pays, notamment via des devoirs d'enquête complémentaires, des contre-enquêtes, des documentaires, des conférences, des articles, des analyses, des interpellations, des commissions d'enquête parlementaire, des rassemblements, des marches. Il faut qu'il y ait des procès publics. Le contrôle d'identité ainsi que les techniques policières, des courses-poursuites, du pare-chocage, de la clé d'étranglement et du plaquage ventral aux conséquences mortelles doit être objectivé. La question des violences policières est aujourd'hui incontournable dans le paysage institutionnel et médiatico-politique. Je finirai en citant Frantz Fanon. Une société est raciste ou ne l'est pas. Tant qu'on n'aura pas saisi cette évidence, on laissera de côté un grand nombre de problèmes.
C'était la conférence « Histoire d'une image de violence policière » avec comme intervenants invités Antoine Schirrer, Émile Costard, Jook Kalwart et Nordine Saïdi. Cette rencontre s'est déroulée au cinéma Nova le 12 juin 2022 au sein du cycle « Screenshot, images de révolte, images révoltantes, à quoi bon le cinéma ?» Elle a été organisée et présentée par Mo Giro, dans le cadre d'un projet de recherche « Copwatching, la guerre du storytelling », soutenu par le FNRS et la SBL Art et Recherche.